spirituel aujourd'hui. Il s'agit d'une émission spéciale. C'est la poursuite un peu des émissions spéciales qu'il y a de temps en temps. Et le titre aujourd'hui peut surprendre bien des gens. C'est « À quoi ça sert d'être chrétien ? À quoi ça sert d'être catholique ? Si toutes les religions se valent, bah, c'est la même chose ? Est-ce que c'est vraiment la même chose ? Sans vouloir jeter un regard désobligeant à l'égard des autres religions, je crois qu'il faut savoir pourquoi, si nous sommes chrétiens, pourquoi nous le sommes, et savoir pourquoi ça vaut la peine d'être catholique. C'est une question fondamentale, une question à laquelle il faut savoir répondre. Le Christ est venu jeter dans le monde, comme le dit le père Lelotte, un levain nouveau, une vie nouvelle. Oui, une vie nouvelle, c'était quelque chose de différent. Je vous en parlerai plus loin. Mais dès à présent, il me semble qu'il importe de marquer quelques aspects importants de la doctrine qui a été enseignée par Jésus-Christ. Il est évident qu'il a voulu spécialement d'abord nous faire connaître davantage là où nous allons, là où le monde va, là où le monde tend, et qui est un Dieu amour. Tout le monde tend vers un Dieu amour, un Dieu Père. Il me semble que ça, c'est archi clair. Je vous en ai parlé plusieurs fois, je n'y reviens pas. Le Christ a voulu établir sur terre le royaume, si on peut dire, de ce Dieu paternel, au cœur de mère. Le Christ Jésus a voulu donner à ce royaume, on appelle ça un royaume, si vous voulez, pour utiliser peut-être un autre mot, là je ne sais pas quel mot utiliser, il a voulu donner donc à ce royaume une loi fondamentale, qui est la loi de l'amour, on ne le répétera jamais assez. Et quand on a vraiment compris ça, qu'il a voulu nous révéler tout cela, et ce qu'a compris si bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, eh bien tout change dans nos vies. Où est le Dieu cruel? Il est disparu. Où est ce vieux bonhomme sans cœur qui est toujours enragé et qu'on osait appeler Dieu? Non, il n'existe pas. Et aucune religion, en dehors de celle du Christ, il faut l'avouer, n'a jamais présenté le Créateur, le Tout-Puissant, comme un Père, notre Père. Nos ancêtres dans la religion, les Juifs, eux-mêmes, ne concevaient pas vraiment Dieu ainsi. Les Juifs tremblaient, et ils tremblent toujours devant lui, comme devant un juge implacable et craignant même de prononcer son nom. C'est à la fois la crainte de prononcer son nom, puis la crainte aussi que l'écrivant, ou même le prononçant, on adore que le bruit ou que les signes, alors que Dieu est tout à fait un esprit qui n'a pas de matière. Il y a ça aussi, il faut comprendre les Juifs. En somme, il a fallu que le Christ, personne divine incarnée, nous fasse connaître Dieu comme Père pour que nous osions l'aborder de cette façon-là. C'est ça son enseignement. Et à la fin de sa vie, il va dire, souvenez-vous ce que c'est beau cette parole, et j'espère que nous prononcerons tous cette parole en mourant, « Père, je vous ai glorifié sur la terre. J'ai rempli la mission que vous m'aviez donnée. J'ai manifesté votre nom aux hommes. Voilà, je peux partir maintenant. Car votre vrai nom, ô Dieu, c'est Père. La seule prière que le Christ nous enseigne, il veut que nous l'adressions au Père et notre Père qui est aux cieux. Et il nous fait demander que son nom soit béni, que son règne arrive. On va regarder ensemble dans les évangiles. Constamment, Jésus revient sur cette idée, que Dieu est notre Père. On voit ça dans Matthieu, chapitre 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre et prie ton Père. Deux versets plus loin, il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Puis, quelques versets plus loin, il dit, si vous remettez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous remettra aussi les vôtres. Et encore plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 6, il dit, regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. Puis il dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, que votre lumière brille devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Puis dans Saint Jean, après la résurrection, il ordonne à Madeleine, dont nous avons parlé longuement hier, chère Sainte Madeleine, « Allez à nos frères et dites-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. » Évidemment, le Christ cherche à se faire des disciples. « Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce. » Mais c'est pour les conduire à Dieu. Pas pour rien qu'il veut des disciples. Il leur dit « Je suis la voie. » Personnellement, personne, c'est-à-dire, ne va au Père que par moi. Puis il dit aussi, Père, et c'est avant sa passion, ce qu'il dit ça, Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que tous ceux que vous lui avez donnés aient la vie éternelle. C'est pour ça, avoir la vie éternelle. Or, voici la vie éternelle, il l'explique, qu'ils vous connaissent, c'est ça la vie éternelle, qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. À quoi ça sert de les connaître? C'est parce que ça suscite un amour débordant, un amour passionné, une contemplation éternelle. Et tel est un des aspects, on peut dire, essentiels du message du Christ Jésus. D'abord, Dieu est un Père, il est bonté, miséricorde. Il n'y a pas moyen d'être disciple du Christ sans prendre à l'écart de Dieu l'attitude d'un fils à l'égard d'un Père. Il faut absolument que ce soit l'attitude à l'égard d'un père, ou d'une fille, si vous voulez, à l'égard d'un père qui a un cœur de mère. Tout en lui faisant connaître la paternité de Dieu, bien le Christ Jésus revient sans cesse sur cette idée, qu'il est venu établir parmi les hommes le royaume de ce père. Souvenez-vous aux gens de Capharnaüm, où tout a commencé. Capharnaüm, c'est au bout du lac de Tibériade, on peut y aller. Quand on va en Israël, et c'est bouleversant, il y a le mont des Béatitudes qui est là. Il y a même la maison de Saint-Pierre, là, dans les ruines du village de Capharnaüm. C'est bouleversant quand on visite ça. Hein. C'est là qu'on peut dire le christianisme a commencé à être enseigné. Alors, aux gens de Capharnaüm, par exemple, qui le prient de demeurer avec eux, Jésus répond, « Non, non. Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car j'ai été envoyé pour cela. » C'est pour ça qu'il a été envoyé, pour nous annoncer des choses extraordinaires, que nous avons un Père et non pas un juge épouvantable, un être intolérable, un Dieu qui fait peur, un Dieu qui nous empêche de dormir. Non, non, Dieu est un Père, toute miséricorde. Relisons les beaux textes de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus ces jours-ci, et nous introduirons à ces beaux textes de Jésus. Ce royaume d'un Dieu paternel, le Christ en donne quelques caractéristiques. Ce royaume commence dès la venue du Christ sur terre. Jean-Baptiste, qui annonce le Messie, recommandait « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est évident qu'il faut se repentir. Ça se fait pas tout seul. Il faut changer, il faut mettre ses yeux dans les regards de Jésus, comme je vous disais hier. Et ce royaume se forme à partir du Christ, par lui, avec lui, puis en lui. On lui dit à la messe. Le royaume des cieux, c'est dans Matthieu chapitre 13, écoutez bien ça, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que les plantes potagères et devient un arbre. C'est tellement plein d'espoir. Hier, je suis allé prier avec les séminaristes et les professeurs du grand séminaire. Nous n'étions pas tellement nombreux, malheureusement. J'aurais voulu que tout le monde vienne. C'était si beau dans cette chapelle. La messe était magnifique. Et les prières. On sent que l'Église se réveille petit à petit, là, au sein du grand séminaire. Le royaume de Dieu, c'est comme la vie humaine. Hein. C'est tout petit au départ de l'enfance. Ça grandit jusqu'à l'âge adulte. Et de ce royaume, personne n'est exclu, comprenez-vous? Personne, tout le monde peut se tourner vers Jésus et le regarder dans les yeux et lui demander pardon. Le royaume, c'est dans Saint Matthieu. Le royaume est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et les serviteurs sortirent sur les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, car tous sont appelés. Hein? C'est Jésus qui le dit, tous sont appelés. Nous sommes tous appelés. Vous, oui, qui m'écoutez, vous êtes tous appelés à être des saints. Il suffit d'accepter l'invitation du Christ, mais il faut être prêt à tout sacrifier pour entrer dans ce royaume. Le royaume des cieux, dit-il, est semblable à un trésor caché dans un champ. C'est Jésus qui dit ça. Un homme l'ayant trouvé, s'en alla vendre tout ce qu'il avait, et acheta ce champ. Qu'est-ce que ça veut dire, être prêt à tout sacrifier? On verra ça tout à l'heure. Il ne s'agit pas de tout vendre nécessairement, mais être détaché du fond du cœur. Et le développement de ce royaume sera sans cesse contrarié, et les méchants s'y mêleront au bon. Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un homme qui avait semé de bonnes semences dans son champ, et pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du froment. Et ce n'est que plus tard que l'on séparera les bons des méchants. Jésus dit, n'arrachez pas l'ivraie. L'ivraie, c'est les mauvaises herbes. De peur que vous n'arrachiez aussi le froment, laissons les pécheurs parmi nous, essayons de les guérir. Ne les regardons pas de haut, n'oublions pas Marie-Madeleine qui était regardée de haut, elle est devenue la compagne de Marie et de Saint-Jean à Éphèse. C'est elle qui a annoncé la résurrection du Christ en plus de ça. Jésus dit, laissez tout en ordre jusqu'à la moisson, et alors je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. Ce royaume est dans ce monde, et sur cette terre, sans être de ce monde. C'est très important, ça. Jésus dit bien, mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ajoute, Père, ceux, c'est dans Saint Jean, ça, Père, ceux que vous m'avez confiés sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Bien oui, il va être un levain dans la pâte, sans être de la pâte, hein? Pour transformer la pâte, pour l'élever. Et il dit bien, c'est magnifique, le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prit et mélangea dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout eût fermenté. Hein? Alors nous sommes, nous, chrétiens, le ferment dans la pâte. Et nous n'avons pas à dédaigner ceux qui ne partagent pas notre foi et qui sont, à nos yeux, un peu égarés. Et il faut prier pour eux, leur tendre la main, les aider. Et quand on les voit, prier pour eux, plutôt que de s'irriter, de se fâcher. Il faut aimer même ceux qui nous font du mal et du tort. C'est pas facile, l'enseignement de Jésus, mais c'est à cette condition que le royaume de Dieu, notre Père, va s'établir, parce que c'est un royaume d'amour. Le sujet de cette rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une question. À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'être catholique? Et justement, dans la messe d'aujourd'hui, si vous avez votre prion en église, ça coûte pas cher, hein? C'est le prion en église chaque année, une quinzaine de dollars au maximum, je crois. Et vous avez ça toutes les messes de tous les jours. Et aujourd'hui, à la messe, c'est formidable, la lecture de Saint Paul aux Romains, il dit bien que, frères et sœurs, j'emploie ici un langage humain adapté à votre faiblesse. Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de l'impureté et du désordre, qui ne mène qu'au désordre. De la même manière, mettez-le à présent au service de la justice qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes que vous regrettez maintenant? En effet, ces actes mènent à la mort. Et il termine de façon magnifique en disant, « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récoltez la sainteté. Et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Que c'est beau! Que c'est beau! C'est de toute beauté. Eh bien, ce royaume est avant tout intérieur, hein, invisible. On verra plus tard. Et disons que c'est dans les âmes que ce royaume s'inaugure et s'étend. Hein. Celui qui fait la volonté de mon Père, dit Jésus, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons à lui notre demeure. Une même vie, celle de la grâce, circulera du Christ dans les âmes, mettant le Créateur en rapport avec ses créatures, le Père en contact avec ses enfants d'adoption, moi en eux et vous en moi, Père. C'est Jésus qui dit ça. Et les âmes vivront ainsi en société avec le Père et le Fils dans l'Esprit. Et ainsi va se constituer un royaume, une grande famille, une assemblée, une église. Une église, oui. Ça veut dire une assemblée, c'est une église. À laquelle une vie commune, qu'on appelle la grâce, là, va donner la cohésion, l'unité, le dynamisme. Vous direz, je vois pas de dynamisme dans notre église, c'est ennuyant comme la pluie. C'est que vous ne voyez pas le dynamisme de la part de ceux qui croient vraiment et qui vivent vraiment leur foi, qu'ils soient de petites gens, toutes petites, ignorants, mais pleins de charité et d'amour. On voit ça dans les journaux ces jours-ci. Il y a des annonces de Desjardins, les caisses populaires Desjardins, et je vois « Aimer, c'est agir ». On nous montre le portrait d'un infirmier de rue, Gilles Kegle. On dit que ça fait maintenant 11 ans que M. Gilles Kegle est infirmier de rue à Paris, et 7 jours par semaine, 365 jours par année, il offre sans compter soins et compassion aux personnes démunies de notre société. Ah, c'est ça le royaume de Dieu aussi. C'est ça le dynamisme. Et cette église sera en droit catholique, c'est-à-dire universel. C'est ça que ça veut dire, catholique. S'étendant à toute chose, hein, c'est pas nécessairement simplement la surface de la terre, c'est qu'elle s'étend à toute chose. Rien n'est étranger à l'Église. Elle n'exclut personne. Puisque la création tout entière, c'est l'œuvre du Père, et ça retourne au Père, hein. On rejoint la pensée de Saint-Paul et de Teilhard de Chardin. Mais ce royaume aura une organisation visible. Oui, une organisation visible. J'en vous en parlerai dans une autre émission. C'est ça, cette organisation visible cherche à sauvegarder, à faciliter le développement de ce royaume intérieur dont je vous parle. Progressivement, là, le Christ en établit les lignes fondamentales et se choisit, vous vous souvenez, des représentants visibles, les apôtres. Puis il leur donne mission d'enseigner. Il leur dit « Allez enseigner toutes les nations ». Il leur donne aussi une mission de gouverner. Vous vous souvenez? Il leur dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Qui vous écoute, m'écoute. Il n'a pas dit ça pour rien. C'est pas des blagues. Il a donné aussi comme mission fantastique, c'est de sanctifier. Il dit « baptiser ». Ce que je fais, faites-le en mémoire de moi aussi. Hein? L'Eucharistie, c'est sanctifiant. Et Jésus leur donne un chef visible et unique dans la personne de Pierre et de ses successeurs. Quelle belle parole il leur dit, hein, « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église ». Il ajoute, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous savez que Jean-Paul II, c'est le 261e successeur de Saint-Pierre. Il est le 262e pape. Pape, ça veut dire papa, ça veut dire père. Ça veut dire le serviteur des serviteurs. Celui qui garde le dépôt sacré et qui cherche à ce que nous devenions des saints, comme un père qui veut que ses enfants réussissent dans la vie, comme on dit. Et cette organisation visible, où il va rester visible, Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles », eh bien le Christ dans son Église promet de l'animer, de l'Esprit Saint. Lumière, force, amour de ce même Esprit qui a présidé à la création du monde par l'incarnation, ces deux œuvres d'amour. Hein, vous savez que c'est par l'Esprit Saint que la Vierge a mis au monde Dieu lui-même, Jésus. Et cette organisation visible que l'Église doit remplacer le cadre de la religion juive, visible lui aussi, mais devenu d'une certaine façon inapte à recevoir la doctrine nouvelle, crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de juifs qui se sont convertis et nous leur devons à ces premiers juifs. D'ailleurs, les 5000 premiers convertis, c'était des juifs. Et encore aujourd'hui, que de juifs convertis sont des lumières dans l'Église, ne serait-ce que le cardinal archevêque de Paris, mais quantité d'autres. J'en connais. J'ai une filleule juive, moi. On ne met pas du vin dans des outres vieilles, dit Jésus, et il a mis ça dans l'Église, ce vin nouveau. Et ce royaume, enfin, va s'achever, au ciel, après la seconde venue du Christ qui va l'offrir à son Père. Et la moisson, c'est la consommation des temps. Alors le Christ viendra, dit-on, dans sa gloire, et séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs, et aux uns il dira, « Venez les bénis de mon Père, oh, puis aux autres, allez-vous-en loin de moi. » Le maudit au feu éternel, oh, ce ne sera pas sans un grand déchirement de sa part. Je suis sûr que son cœur blessé, plein d'amour, va rayonner quand même d'amour. Et saint Paul ajoute, puis ce sera la fin, quand le Christ remettra le royaume au Père, lorsque tout lui aura été soumis, alors que le Fils lui-même fera hommage à celui qui lui aura soumis toutes choses. Et alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ce sont des paroles splendides, c'est extraordinaire, c'est d'une grande beauté, c'est comme une grande symphonie de Beethoven. C'est plus beau encore, et c'est à cela que ça sert d'être chrétien, c'est à ça que ça sert d'être catholique. Puisque tous sont appelés à devenir enfants de Dieu dans ce royaume, tous les hommes, toutes les femmes doivent se traiter en frères et sœurs. Vous êtes tous frères, dit le Christ, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et la loi de Moïse disait déjà, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais cette loi était tellement peu observée que le Christ pourra dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Dans le royaume que le Christ établit, là, mais il y a une double loi d'amour. Hein? On peut dire une loi unique, mais qui dominera toutes les relations des hommes entre eux, puis des hommes avec Dieu. Hein? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le plus grand et le premier commandement. Le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, le Christ étend cette loi à tout homme, même aux ennemis, comme je vous ai dit. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, afin que vous soyez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Peut-il pas lever son soleil sur les méchants, sur les bons? Ne fait-il pas descendre la pluie sur les justes et sur les injustes, dit Jésus? Alors le Christ va donner lui-même l'exemple, va s'intéresser aux pécheurs pour les sauver, il va pardonner même à ses bourreaux, hein? Il faut, c'est bien sûr, établir une hiérarchie dans nos affections. Mais la loi de la charité, la loi de l'amour doit être la note distinctive de tous ceux qui font partie de ce grand royaume du Christ, le royaume du Père. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Il n'y a plus de distinction entre les Juifs et les gentils parce que le même Christ est le Seigneur de tous. Alors, presque centenaire, ainsi saint Jean, là, qui ne cessera pas de répéter à ses disciples cette belle parole toute simple que l'on connaît, qui, c'est le fondement, aimez-vous les uns les autres. C'est le précepte du Seigneur, contentez-vous de l'accomplir. Aimer le prochain, c'est avant tout reconnaître et respecter ses droits imprescriptibles, c'est donc remplir à son égard les devoirs de justice, la justice, avant de faire appel à ce qu'on nomme communément la charité.
Radio Ville-Marie, 91,3 FM.
Je reviens donc à la question. À quoi ça sert d'être catholique? À quoi ça sert d'être chrétien? Ça donne quelque chose de formidable. Après le départ du Christ visible sur la terre, le monde a assisté à la plus profonde des révolutions. En êtes-vous conscient? L'Église va passer par des tourments de toutes sortes, c'est sûr. Surtout à cause des exigences de sa doctrine, qui lui a été laissée par le Christ lui-même. Mais cette institution nouvelle qu'est l'Église, elle s'établit solidement, et elle rayonne partout, puis elle reste, à mon sens, après 20 siècles, aussi vivante que jamais, parce que l'Esprit de Dieu l'anime, l'Église catholique. Vous direz, elle est en déroute. Je ne le crois pas. car l'Église, c'est l'Église tout d'abord des saints. Et les saints sont la structure même de l'Église vivante avec le Christ, parce qu'ils sont d'autres Christ. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Ils sont beaucoup plus nombreux que vous pensez. J'ai salué une religieuse cette semaine qui a quitté l'archevêché pour lui dédier personnellement, intimement, mon émission sur Sainte Madeleine, puisqu'elle s'appelle Madeleine. Eh bien, c'est une sainte, je crois, cette femme. Tant de Québécoises comme ça que l'on rencontre et qui sont des saints. Par le Christ, il y a une réalité nouvelle qui a surgi, visible et invisible, s'est installée dans le monde sans être du monde. Et cette réalité, bien, il va falloir à présent l'étudier de plus près, c'est cette Église. La voir à l'œuvre, la reconnaître, reconnaître sa grande bonté à l'égard des hommes et de tout ce qui est au service de l'humanité. Oui, la générosité de l'Église est presque sans borne à travers toute la surface de la terre. En êtes-vous conscient? Même ici à Montréal, la plupart des œuvres sociales, des œuvres qui se font pour les délaissés, les malheureux, les malades, etc., et qui se font avec tant de générosité, sont des œuvres chrétiennes, catholiques. Oui, c'est extraordinaire quand on y pense. Je me souviens d'avoir interviewé à la télévision, je vous l'avais déjà dit une fois, Michel Régnier. Michel Régnier, c'est un des grands cinéastes de la souffrance. Il a fait des films, 145 films, dont près de la moitié dans le tiers-monde, à l'époque où il a publié L'Humanité seconde, il y a déjà une dizaine d'années. Il m'avait donné son livre en 1986, au moment de l'entrevue qu'il nous avait donnée à Radio-Canada. Cet homme incroyant, athée, a le cœur sur la main quand il s'agit de la justice, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure. Car la charité est jointe à la justice. Il n'est pas question uniquement de charité chez nous, chrétiens. Il est question aussi de justice. Et cet homme, animé par la justice, nous disait à un moment donné, quand on lui a demandé, mais comment faire pour aider ce peuple, comment faire pour aider ces gens malheureux à travers le monde? Il avait dit, d'après mon expérience, après tant d'années, ne donner qu'à des œuvres catholiques. Chose étrange, il n'est pas catholique, il est athée. Il disait que dans le catholicisme, la proportion qui servait pour la papeterie, pour l'administration, pour des petites choses comme ça, c'était un petit pourcentage. Alors que dans d'autres œuvres, malheureusement, ça atteint les 10%, 15%, 30% et même, disait-il, 60%. Alors qu'on donne un dollar, il y en a 60 cents qui sont dépensés pour toutes sortes de choses et qui ne vont pas aux pauvres. C'était surprenant de la bouche de cet homme. Je ne l'oublierai jamais. C'est une réalité invisible. L'Église est une réalité visible à la fois. Vous vous souvenez presque tous de cette parole de Jésus, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le grain meurt et ressuscite pour communiquer sa vie à l'épi. Hein? Et comme le Christ, Jésus est mort et il est ressuscité pour vivre en nous. Pour vivre en nous! Et la vie divine que le Christ possédait en plénitude, eh bien, il va désormais la répandre à travers le monde et la communiquer à ceux qui voudront mettre leur regard dans le sien puis se convertir. C'est comme ça que se réalise la parole de Jésus, « Je suis la vie, je suis venu pour que les hommes aient la vie plus abondamment. » Oui, quand on le regarde dans les yeux et qu'on devient amoureux de lui, eh bien la vie... Sa vie divine entre en nous, et la vie divine du Christ actuellement répandue sur toute la terre, bien, elle s'insère, elle s'incarne à nouveau en tous ceux qui l'acceptent. Cette vie divine va s'épanouir éternellement en tous ceux qui acceptent. C'est à partir de cette vérité que va jaillir la prodigieuse richesse du catholicisme à travers les millénaires, 2000 ans. Comme le dit si bien Georges Goyot dans un vieux livre qui s'appelle « Le catholicisme », le résultat de cette immense nouveauté que fut le christianisme ne fut pas uniquement le resplendissement d'une lumière. Le Christ, d'après l'Église catholique, n'apporta pas seulement des certitudes aux hommes, il leur apportait une vie. C'est ça l'essentiel. La foi catholique, ce n'est pas des certitudes, c'est une vie. Jésus est toujours avec nous, en nous. Parce qu'il me semble impossible de comprendre les affirmations du Christ, si ce n'est dans le sens d'une survie au milieu de nous. Je le dis, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Je le répète, cette parole admirable. Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Il est toujours là. Celui qui fait la volonté de mon Père et moi, vous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Il habite en nous. Il dit, restez en moi et moi en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis. Et que vous vivrez. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Que ces paroles sont bouleversantes. Hein? Puis il dit aussi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Or, comme je vous l'ai dit souvent, la grâce est précisément la vie divine, donc Dieu lui-même. Hein? La grâce qui déborde la nature humaine du Christ, où elle s'est incarnée parfaitement, et qui se répand à travers l'humanité. Hein? Et c'est l'incarnation, là, qui est l'insertion du divin dans l'humain, dans le corps de Marie, et qui a vécu parmi nous plus de 30 ans, qui se continue. La grâce, c'est un courant prodigieux de vie qui, venu de Dieu par le Christ, retourne à Dieu. Oui, ça retourne à Dieu. Ça emporte avec lui nos existences. Ah, nos existences, nos travaux, nos misères, si nous ne mettons pas obstacle à sa force conquérante. Et cette vie divine ne s'applique pas à nous comme un manteau sur un corps. Elle nous est intérieure. Elle nous pénètre comme la sève pénètre l'arbre et toutes ses parties vivantes. Elle nous pénètre comme l'âme pénètre le corps. Ce qui fait que chacune de nos actions désormais n'est plus seulement humaine, mais elle est humano-divine. Et ce flot de vie atteint toutes les âmes qui veulent et même celles qui ne veulent pas. Oui, c'est une vie qui va rejoindre jusqu'à des gens qui sont détournés du Christ. Pas une seule n'échappe à son action finalement. Et on peut dire que le commerçant, le dépanneur, derrière son comptoir, puis chacun de ses clients, ou celui que vous voyez par votre fenêtre qui répare le toit d'en face, ou l'autre qui passe devant chez vous et qui conduit son gros camion, ou l'itinérant qui ne sait plus où aller, ou chacun des passants, le sur nos rues, est sollicité par la grâce. Si une âme refuse accès à la grâce, eh bien Dieu s'efforce de l'ébranler, il lâche pas Dieu. Il est comme une vague là, qui attaque sans relâche la digue du port. Hein? Vous savez, les vagues qui foncent. Et Dieu est comme ça. Par contre, toute âme qui ne met pas obstacle à la pression que la grâce exerce, eh bien, ah là, la grâce l'envahit. La grâce l'élève. La grâce la surnaturalise et l'entraîne en Dieu. Puisque déjà cette grâce, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle le Père puis l'amour du Fils. Nous ne sommes donc pas sur terre des isolés qui marchent péniblement vers un Dieu lointain, lointain, qui disent le bonhomme là-bas, là, comme j'entends des fois, c'est abominable. Non, Dieu est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. À nous de le reconnaître, de le recevoir, puis de l'aimer. C'est à ça que ça sert d'être catholique et d'être chrétien. Dieu ne s'identifie pas à sa créature, ce qui serait du panthéisme, mais de la même façon que le fer, vous savez, tout en gardant sa nature, l'est transformé quand il est plongé dans le feu, on voit ça des fois à la télévision, ainsi, notre vie entre dans le rayonnement de Dieu et s'en trouve divinisée. Et Dieu qui habite notre âme, par la grâce, mais cette action de Dieu est même si puissante qu'elle dépasse en définitive notre activité humaine. Et c'est ce que saint Paul, qui veut donner à la grâce la priorité dans son activité, exprime en termes clairs, oh, c'est clair, 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 quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Tout est résumé là-dedans. Hein? Est-ce qu'on peut être plus convaincu du fait que le Christ est toujours vivant parmi nous que saint Paul? Saint Paul est admirable. Et par son origine, bien, la grâce d'un homme ne diffère pas de celle d'un autre homme. Non, toujours la même origine, puisque la grâce est la vie même de Dieu. Pour autant, évidemment, qu'on ne l'empêche pas de se communiquer. Il ne faut pas l'empêcher par des péchés, par un détournement, par de l'égoïsme, de la bêtise, de l'attachement aux niaiseries. Quoi d'étonnant alors que cette vie divine établisse entre tous ceux qui l'acceptent des liens fantastiques. On voit ça dans les communautés chrétiennes vivantes. Elle crée une grande famille, une communauté nouvelle, une église, l'église qui signifie communauté, assemblée. Et dans cette grande famille, un même sang circule, c'est la grâce. Les diverses races humaines s'estompent pour laisser apparaître la seule race qui compte aux yeux de Dieu. C'est la race des enfants de Dieu. Il n'y en a plus de racisme. Le prochain pape, d'ailleurs, on disait à la télévision américaine il y a quelques jours, pourrait être un Africain. On nous l'a présenté, on l'a interviewé. C'est un converti, en plus de ça. Mais oui, il vient d'une famille païenne. Incroyable. Dans cette famille, Dieu est le Père. Il donne la vie à son Fils unique, notre Seigneur. Et par lui, en lui, il la donne aux enfants d'adoption que nous sommes, nous, hommes et femmes. Et nous devenons donc fils et filles de Dieu, frères et sœurs du Christ, frères et sœurs les uns des autres. Nous sommes co-héritiers du royaume. Et comme on peut le lire au début de l'évangile de Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans ce groupe, dans cette communauté, dans cette église, s'établissent des échanges entre ceux qui sont saints, oui. C'est entre eux qu'il y a des échanges. C'est-à-dire entre ceux qui sont en état de grâce. Qu'ils soient au ciel, l'église triomphante que nous allons célébrer le 1er novembre, au purgatoire, ceux que nous allons célébrer en priant pour eux le 2 novembre, ou sur terre, l'église militante, nous qui sommes ici sur terre, à militer. Nous sommes des soldats de Dieu. Il existe une collaboration étroite entre toutes ces âmes. Une entraide fraternelle dans le domaine spirituel. Et c'est ce que nous appelons l'union des saints, c'est la communion des saints. Quelqu'un l'a bien résumé, hein? L'Église, c'est le Christ toujours incarné dans le monde, incorporé au monde et indépendant du monde. Et Bossuet disait d'une façon magnifique, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, c'est Jésus-Christ tout entier, c'est Jésus-Christ dans sa plénitude. Il y avait le Père Sertilange qui disait « L'Église, c'est l'humanité organisée en Dieu par le Christ. » C'est ça l'Église. Il y a désormais dans le monde, dit Sertilange, une synthèse du divin et de l'humain, inaugurée dans le Christ par l'incarnation, puis continuée en nous, par cette incarnation permanente, sociale, appelée Église. Alors, mettons-nous dans cette perspective du Christ survivant parmi nous, toujours vivant parmi nous, et songeons qu'une doctrine qui retient de plus en plus l'attention des fidèles instruits, et que le pape Pie XII a précisé longuement dans une encyclique qui avait fait beaucoup de bruit, la doctrine du corps mystique du Christ, là, par laquelle nous croyons, oui, nous croyons au prolongement mystérieux à travers les âges, là, de celui Jésus qui a voulu rester avec nous jusqu'à la fin des siècles, aussi vivant, aussi agissant qu'autrefois sur les routes de Palestine. Eh bien, songeons que cette doctrine est absolument emballante. Oui. Musique. Nous continuons car c'est pas terminé. C'est à savoir qu'est-ce que c'est que ce corps mystique du Christ. Et ça a été bien expliqué par Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Et vous savez, c'est ce texte qui avait ébloui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle qui a voulu être le cœur, l'amour. Hein? Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous, en effet, dit saint Paul, nous avons été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Et ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Thérèse, l'enfant Jésus, a choisi d'être au cœur, d'être l'amour, je serai l'amour. Et dans la lettre aux Romains, on trouve ceci. Ainsi qu'en un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous ces membres n'ont pas la même fonction, Ainsi, tous ensemble, nous sommes un seul corps dans le Christ, membres les uns des autres. Alors, quand on y pense bien, c'est cette vérité qui a bouleversé saint Paul lorsque, se rendant à Damas là, pour persécuter la communauté des chrétiens, vous vous souvenez, le Christ lui est apparu et lui a dit, là, il en est tombé en bas de son cheval, « Pourquoi me persécutes-tu? » C'était le Christ que saint Paul allait atteindre, allait persécuter en portant la main sur ses disciples. Hein. Il persécutait le Christ lui-même, c'était son corps mystique. En persécutant les chrétiens, ils persécutaient, oui, le Christ. Parce que les chrétiens sont, je le répète, le corps mystique du Christ. Et après son ascension, bien, Jésus a utilisé une parabole pour dire qu'il restait parmi nous. C'est beau ça. Notre Seigneur s'est servi d'une comparaison plus suggestive, peut-être que celle de saint Paul, quand il a dit « Je suis la vigne et vous en êtes les sarments ». Les sarments, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Bien, oh, disons, c'est une petite branche. Or, la vigne, c'est quoi? C'est l'ensemble de la plante, c'est le cep, puis les branches compris, tout ensemble. Et le Christ n'a pas dit, je suis le cep, je suis le tronc, puis vous autres, vous êtes les petites branches, les sarments. Non. Il dit, je suis la vigne, tout entière. Alors, les chrétiens sont donc partie intégrante du Christ total. On n'y pense pas assez quand on entend cette petite parole de Jésus qui est si belle. La comparaison de la vigne, donc, est très féconde en enseignement. Par exemple, de même que la vigne, elle est plantée pour donner des sarments, des petites branches, nous autres. Eh bien, pour exprimer sa vie en eux, ainsi le Christ n'est venu parmi nous uniquement pour nous communiquer la vie divine. Uniquement que pour nous communiquer la vie divine. Ensuite, de même que sans les branches, la vigne ne serait jamais qu'une plante, sinon inutile, du moins incomplète, puis apporterait pas grand fruit. Ainsi, le Christ sans nous, c'est la même chose. Il lui manquerait de pouvoir propager son message unique et révolutionnaire. C'est là qu'on tire toute notre importance. Elle nous vient du Christ lui-même. Les chrétiens font partie intégrante du Christ. C'est nous qui allons révolutionner le monde par l'amour. C'est nous. Puis de même que la sève est unique dans le cep et les sarments, ainsi la vie divine dans le Christ puis dans les chrétiens, c'est la même vie divine. Et de même que la vigne donne l'unité aux branches, ainsi le Christ la donne aux âmes qui vivent de sa vie. Nous sommes tous un dans le Christ. Et enfin, de même que le sarment ne peut porter des fruits s'il est séparé du cep de la vigne, ainsi du chrétien, les seules actions vivantes, éternelles, sont celles que nous posons en état de grâce, en état de vie divine. Autrement, nous sommes comme des feuilles mortes. Nous sommes comme des feuilles mortes. Le Christ survit. Les chrétiens sont du Christ. Sa vie se prolonge en eux. Il n'est venu que pour eux. Il aspire à répandre par eux la sainteté. C'est toute une tâche que nous avons. Et c'est ça la doctrine fondamentale que le catholicisme professe. Oui, Karl Adam le dit très bien dans son Jésus le Christ. Le christianisme n'est pas quelque chose d'achevé. Le christianisme est essentiellement quelque chose qui croit, qui grandit, qui se fait. Il croit et se fait parce que le Christ mystique et total lui-même, croit et se fait. Étrange, hein? Le christianisme est le développement de l'humanité du Christ dans le temps. Toujours, en tout temps. Aujourd'hui, à la fin de ce millénaire, et en tout lieu, ici, à Montréal et partout autour, le Dieu fait homme, tête du corps mystique, s'incorpore de nouveaux membres. Et toujours, il s'accroît, se complète jusqu'à ce qu'il ait atteint sa plénitude. Le catholicisme se distingue radicalement des autres religions. C'est à ça que ça sert d'être catholique. Oui, parce que le catholicisme se distingue radicalement des autres religions dont aucune n'a jamais osé affirmer que son fondateur continuait à vivre d'une façon mystérieuse, certes, mais réelle, en ses disciples. Non seulement par son influence, ses idées religieuses, ses prescriptions morales, mais en leur donnant de participer à sa vie propre. À quoi ça sert d'être catholique? Eh bien, vous avez la réponse. C'est à peu près la même chose pour tous les chrétiens, des grandes églises et particulièrement de la grande église orthodoxe. Cette survivance terrestre du Christ, c'est la seule explication suffisante de l'unité, de la fécondité, du dynamisme et de la jeunesse et de la pérennité dont fait preuve celle qui nous l'enseigne, en particulier pour ma part, l'Église catholique. Vous voulez en savoir plus? Lisez donc un tout petit livre, L'essentiel de la foi catholique, paru chez Novalis. Ça se vend 10 $. Ça a 150 pages, c'est pas cher, 10 $. L'essentiel de la foi catholique, avec une préface du cardinal Turcotte. Tout petit livre qui va vous renseigner sur ce que c'est que notre foi catholique. En fait, ça se vend 9,95 $. L'essentiel de la foi catholique chez Novalis. Je ne saurais terminer sans lire l'oraison de la messe d'aujourd'hui, qui s'applique parfaitement à cette émission. Ô Dieu notre Père, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Amen.